Ça ne serait pas très raisonnable de présenter Alexandre Geffen, donc je ne dirais pas qu'il est un des créateurs et un des animateurs de Fabula. Je ne dirais pas qu'il vient de publier avec d'autres le Artamen ou Grand Cyrus, qui constitue à la fois un événement littéraire, donc une œuvre non éditée depuis combien, 3 siècles?
Ouais, 3 siècles.
3 siècles, plus le plus gros roman de la littérature française, plus une édition en ligne qui est un modèle du genre. Donc je ne vous dirai pas tout ça parce que vous connaissez Alexandre, je vais simplement lui laisser la parole. Alors sur un sujet que j'ai volontairement laissé mystérieux sur le site, sur l'internet 2.0. Alors il y a ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, je fais partie de ceux qui ne savent pas, donc on va savoir de quoi il s'agit et voilà, je te donne la parole.
Merci, je vais pas faire une histoire de l'internet, mais je vais quand même revenir sur un certain nombre de promesses non tenues. Vous savez qu'à partir des années 90, internet s'est défini d'abord par le web comme espace unifié d'accès au réseau, et que très vite s'est fait sentir un besoin d'organisation, un besoin de structuration et un besoin d'évolution par rapport notamment à des pages web qui ne correspondaient pas forcément aux attentes de l'ensemble des utilisateurs. À ce moment-là, on a imaginé une évolution qui allait dans un ensemble de directions il y a 4-5 ans, et j'avais dans un précédent séminaire il y a 2 ans essayé de parler d'un des grands rêves d'évolution d'Internet, qui était ce qu'on appelle le web sémantique, c'est-à-dire l'organisation, voire l'auto-organisation du web par le marquage des pages et par une logique de sémantisation de chaque page qui aurait eu en son sein un centre d'information, de structuration et de positionnement. Une page sur Marguerite Duras aurait ainsi défini Marguerite Duras, l'entité Marguerite Duras, à l'intérieur d'assemblée d'écrivains français du XXe siècle, et aurait renvoyé vers le City Douane pour ce qui est de la définition de la littérature française de cette époque-là. Donc ce web sémantique qui était l'objet de toutes les attentions, en particulier du World Web Consortium, dans les années 90-95, était un des éléments de la vision qu'on avait à ce moment-là du web. J'ai combien de temps à peu près, Michel?
On a 2 heures devant nous, donc tu en prends tout ce que tu veux.
D'accord, donc je peux faire un retour un peu...
Voilà, je peux faire un topo et suivre une discussion, tu peux parler, entrecouper de discussion, tu peux faire comme tu veux, ces deux heures sont pour toi et pour ton sujet.
Donc, ça me permet d'évoquer un peu plus... Non, mais ça ne va pas être 2 heures. On discutera ça tous les deux. ce web sémantique était l'un des aspects de ce web de deuxième génération qu'on avait commencé à formuler autour de Tim Berners-Lee dans les années 90. L'autre aspect était une structuration plus importante des sites, une utilisation plus régulée des noms de domaine, une réorganisation par sous-nom de domaine notamment, un rôle accru des instances organisatrices, un rôle déterminant des universités, d'un ensemble d'instances comme pôle intermédiaire d'organisation du savoir, une standardisation accrue des pages web en allant vers un standard qu'on appelle l'XHTML, qui est une manière de faire de l'HTML plus clarifié et d'une manière plus propre, en attendant l'avènement dans un futur encore plus lointain de ce qu'on appelle l'XML comme langage utilisé sur le web, l'XML étant un langage ultra structuré qui interdit toute erreur de syntaxe et qui oblige de définir les données avant de les mettre en ligne, contrairement au web qui est un langage de l'empirie numérique, puisqu'on y met en ligne ce qu'on peut et que les navigateurs web gèrent en permanence des quantités d'erreurs de syntaxe invraisemblables. L'autre aspect de ce programme était la création ou la permanence, disons, parce que ça avait été à l'origine du web, d'un web non commercial, est une structuration plus nette entre le web commercial et le web non commercial. On avait également rêvé une séparation plus claire des espaces entre privé et public au moment où femmes commençaient à se faire jour, avec des systèmes de contrôle, des systèmes de régulation, par un certain nombre de règles qui auraient été entérinées par les fournisseurs d'accès. Enfin, on avait rêvé une certaine universalité des navigateurs et des plateformes qui aurait garanti une homogénéité par l'adoption de standards ouverts et clairement utilisés par tous. L'ensemble de ces prédictions, l'ensemble de ces projets se sont complètement cassés la figure. C'est-à-dire que le web sémantique, on le verra, a cédé place pour ce qui est de la réelle, du réel événement de la deuxième génération du web, à un web qui est structuré par les utilisateurs de manière beaucoup plus souple et beaucoup plus anarchique à partir de mots-clés, à travers ce qu'on appelle les folk synonymes, j'expliquerai ce que c'est tout à l'heure. L'idée d'une structuration plus forte des domaines n'a absolument pas été respectée. Au contraire, c'est la fantaisie la plus délirante qui règne. Là, vous voyez, je vais beaucoup parler d'un site qui s'appelle del.ico.us. Et c'est au contraire l'anarchie et l'inventivité la plus grande. Le rêve d'une séparation claire entre le champ du commercial et non commercial s'est écroulé, non seulement par l'importance du spam, mais par un certain nombre d'outils commerciaux qui exploitent, je reviendrai dessus, le travail des communautés, et à contrario par la possibilité d'intégrer facilement, avec ce qu'on appelle les API, des outils commerciaux dans des projets non commerciaux. Dans une version très très simple, c'est simplement le fait que de nombreuses institutions, y compris les institutions publiques, utilisent comme moteur de recherche interne Google, simplement avec un filtrage, demandant à Google non pas de chercher sur tout le web, mais simplement sur leur site. D'autre part, le rêve d'universalité et de propreté des pages s'est totalement lui aussi écroulé. Le XML n'est absolument pas sur le point d'advenir. Manière peu structurée de mettre des informations sur la page web sans séparer le contenu et le contenant qu'on appelle le JavaScript est au cœur du web 2.0, j'en parlerai, et la distinction des espaces privés et publics est elle aussi une perspective tout à fait lointaine, alors que le mouvement au contraire tend à confondre les deux espaces. Alors, ces prévisions ont échoué, de même qu'un certain nombre de prévisions qui ont été, si ce n'est abandonnées à jamais, du moins reformulées de manière très très durable et très très notable. En particulier, un certain nombre de paradigmes et de projets qui devaient marquer l'évolution du web n'ont pas du tout retourné comme on l'entendait. L'idée beaucoup proposée par notamment Sun, disant que the network is the computer, c'est-à-dire le fait que les applications soient distribuées et que la puissance de travail soit fournie par le réseau, ne s'est absolument pas manifestée en tant que telle. L'idée de terminaux qui se connecteraient, des terminaux légers qui se connecteraient à des serveurs centralisés, n'a absolument pas été celle que le web a vérifiée. Et les projets d'informatique partagés où la puissance de votre calcul serait utilisée par d'autres, vous permettant d'utiliser des machines très très légères, n'est absolument pas vérifié. La montée en puissance technologique a conduit au contraire à une inflation des outils, à une multiplication des navigateurs, des normes, et absolument pas à une un bascule de la puissance de calcul sur des ordinateurs centralisés. On continue à avoir nos propres portables et la BNF qui voulait nous imposer ses propres plateformes de travail intégrées où on aurait un accès par des petites cartes mémoire a connu un échec que l'on connaît. Tous les développements qui ont été faits pour que le chercheur vienne avec sa disquette et reparte n'ont rien donné. En revanche, si le réseau est bien votre ordinateur, c'est parce qu'un des grands aspects du Web 2.0 que j'essaierai de montrer, c'est le fait que une partie des applications ou en tout cas des outils d'organisation personnelle, de la prise de notes, de la gestion de calendrier, peut se faire directement sur le web. Et que des logiciels entiers qu'on utilisait sur des ordinateurs particuliers peuvent maintenant se faire complètement en ligne. Je pense en particulier au webmail. Le webmail étant une sorte de client, si vous voulez, comme Outlook, comme Odora, qui est complètement en ligne. Donc le web, si vous voulez, en tant que plateforme universelle, a absolument absorbé, pourrait-on dire, toutes les applications propriétaires qui auraient dû s'y substituer. Et ce n'est pas le paradigme client léger, ordinateur centralisé qui s'est développé. C'est le paradigme n'importe quel client, du plus puissant au plus faible, n'importe quel ordinateur, et le web en lui-même de n'importe quel endroit. D'accord ? Voilà donc une première transformation. L'autre transformation, c'est celle du rêve d'avoir un web écrit en direct, en temps réel, par les utilisateurs. En effet, une des grandes pistes de travail du World Wide Consortium avait été le fait de pouvoir éditer facilement les pages à partir des navigateurs. Là encore, ça ne s'est pas du tout fait comme on s'y attendait. La prise de parole par les utilisateurs du web s'est faite de manière détournée, d'abord par les commentaires, puis ensuite par les blogs, et enfin par des outils de co-rédaction comme Wikipédia, dont je reparlerai, et absolument pas par ces navigateurs qui auraient dû permettre d'écrire en ligne, comme notamment le navigateur Amaya, qui avait grand projet du World Wide Consortium. Et donc ça n'a pas été les standards et les modes d'écriture en ligne que l'on attendait, mais on est passé par des choses que l'on pourrait qualifier d'universel et standard. C'est-à-dire qu'on n'a pas essayé d'apporter, de fabriquer un nouveau navigateur ou de mettre sur tous les serveurs web un système comme on avait rêvé permettant d'éditer les pages. Il y a eu beaucoup de travaux dans ce sens-là. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a bricolé avec ce dont on disposait des outils d'édition en ligne des pages autour de paradigmes qui sont largement communautaires. Hein, on le verra. De même, le rêve d'universalité que l'on espérait autour de ce langage d'écriture universelle d'application qu'est Java a lui aussi connu un certain échec. On devait avoir à l'époque des applications qui auraient dû tourner sur n'importe quelle machine, les mêmes applications. Ça a complètement échoué. Qu'est-ce qui est venu se substituer à ce rêve d'application universelle ? Ce sont des clés USB sur lesquelles on met des applications. Ce sont des CD-ROM auto-démarrables que l'on insère dans un ordinateur et qui démarrent avec des mini-applications Linux. Ou maintenant, ça se fait de plus en plus avec des Windows XP qu'on grave complètement sur un CD. Alors, si j'évoque ces questions un peu technologiques, et je crois que ça sera une séance où je devrais m'appuyer, je devrais être vraiment jusqu'au torse dans ces questions techniques, c'est parce que je crois que ces questions techniques déterminent largement les orientations de la culture du web. Hein. Je crois qu'on ne peut pas ne pas en faire l'économie et penser in abstracto. Hein. C'est largement des bricolages techniques, des solutions ayant émergé pour des raisons tout à fait X ou Y, le baisse de prix de la mémoire avec des USB, etc., qui vont configurer le web de la deuxième génération. Autrement dit, les facteurs les plus déterminants pour l'évolution du web n'ont pas été malheureusement les travaux du World Web Consortium, mais plutôt, je vous le disais, la baisse du prix des cartes mémoire, l'accès à la DSL universalisée, la difficulté à standardiser le langage XHTML pour des raisons qui tiennent à des désaccords entre sociétés, et en rien un projet intellectuel qui aurait pris telle ou telle orientation. Donc il y a véritablement des facteurs objectifs qui conditionnent, des facteurs économiques, techniques, etc., qui conditionnent l'évolution du web. Je le disais tout à l'heure, là encore, l'augmentation de puissance des processeurs a complètement déjoué ce que l'on attendait d'Internet. Et la disparition, la quasi-disparition pour les humanités, par exemple, du CD-ROM, s'explique largement par une évolution assez inattendue des outils technologiques. L'échec de l'e-book risque d'être relancé par ce qu'on appelle l'encre électronique, qui est une technologie émergente. On n'en sait rien. Je crois qu'il faut se garder de toute prédiction abstraite et de toute modélisation abstraite d'un outil qui serait pensé avant qu'il existe technologiquement dans la pratique. Hein, c'est vraiment ce que la nouvelle génération du web a montré, c'est que ce qui marchait, c'est ce qui existait et ce qui était tout de suite utilisé par beaucoup de gens. Donc c'est souvent la chose la moins propre, la moins bien faite, la plus bricolée qui s'est imposée le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Hein, Google était un projet, je rappelle l'origine, qui n'était pas fondé sur un algorithme de classification extrêmement élaboré, des outils d'analyse et de sémantisation d'un livre de page extrêmement complexe, mais simplement sur une massification statistique et un système d'évaluation des liens entre différents sites pour qualifier le positionnement d'une page. Et en rien une révolution intellectuelle ou un modèle de la politique du web différent. Hein, donc il faut vraiment penser concret et penser à l'aide des outils, à l'aide des technologies. Hein. Si vous voulez, les technologies ont finalement assez peu évolué, et je dirais, ça sera un point de départ, que on pourrait dire que les outils qui font le web de zéro ne sont guère novateurs, mais sont des réutilisations originales de technologies qu'on a depuis assez longtemps, parce que le web de zéro est fait avec des choses aussi simples que du JavaScript ou des feuilles de style. Alors, quel est ce web quel est ce web de zéro? S'il fallait le décrire quand même avec un certain nombre de termes abstraits, j'en ai trouvé un certain nombre. Hein. On peut en voir. Il y a un tableau, alors il faut que je le retrouve là-dedans, qui est assez spectaculaire. Pam, 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 pam. Alors, je crois que c'est là. Ah oui, alors il n'y a pas de client PDF intégré. Bon. Alors, peut-être qu'il est... Je cherche la même map, hein, ce qu'on appelle la même map, c'est-à-dire une carte conceptuelle. Non, ça c'est une satire du web 2.0. Elle va peut-être être là sous une forme... Oh là, il y a un problème d'accès réseau là. Voilà ce qu'est le web de zéro, impossible d'afficher la page. Eh oui. C'est invraisemblable. Nous sommes le 28 février 2006 et c'est terrible. Bon, non, je suis un peu large. Donc, alors, quels sont les grands mots? On pourrait parler de co-création. De création collaborative, mais on va voir comment. On pourrait parler d'abrogation et de mélange des espaces et du privé-public. On pourrait parler également de décentralisation et de personnalisation de l'accès au web. Mais j'ai essayé d'organiser mon exposé en deux grandes parties. D'abord, je vais vous présenter les projets et les évolutions du web 2.0 en distinguant les outils de travail collaboratif et les outils de personnalisation. Et j'aborderai d'autre part les technologies et leurs évolutions qui se trouvent à l'origine ces évolutions et ces progrès techniques. Donc je vais commencer par les réalisations concrètes que j'ai essayé d'organiser plus ou moins bien, pour aborder enfin les technologies et les concepts émergents, et je conclurai sur les enjeux pour notre discipline. Alors, en revanche, je crois que mon exposé risque de ressembler à pas grand chose. Oui, oui, non, mais ça c'est pas grand chose. Je voudrais savoir si ça passe. Ouais, ça passe en partie. Ça a l'air de passer à moitié. Bon. Premier aspect du web 2.0 et aspect le plus fort, le plus étonnant, c'est la création d'un web social. Hein. Ce qui ne s'est pas imposé, ce n'est pas le projet intellectuel, ce n'est pas le web universitaire, ce n'est pas le web scientifique, c'est même pas le web commercial, c'est le web social, c'est le web démocratique, le web de tout le monde, le web où tout le monde écrit, où tout le monde partage, et où la logique est une logique d'hyper-démocratie, de démocratie quantitative, et non d'expertise, et non de hiérarchie. Alors, quels sont les grands aspects de cette mise en partage? On sait les outils de mise en partage fichiers, je n'y reviendrai pas. Les mises en partage de fichiers, d'abord à travers des outils comme Napster, qui sont des outils qui permettent de faire du peer-to-peer, et ensuite avec des outils encore plus complexes et encore plus élusifs, encore moins liés au fait que ça soit un utilisateur qui partage un fichier, qui est la deuxième génération d'outils de partage, qui sont fondés autour de la technologie qu'on appelle BitTorrent. La différence entre ces premières technologies de partage de fichiers, c'est qu'on ne partage plus que des parties de fichiers. Est-ce que ça vous intéresse ou pas que j'évoque ces technologies-là? On a une évolution, si vous voulez, à l'origine du web. Vous aviez vos données, par exemple votre fichier MP3, qui était sur un serveur. Hein. Donc quand vous vouliez partager, vous le mettez sur un serveur. Ensuite, deuxième, ça c'était en 1985. Hein. À peu près à la même époque, en 90, les premiers outils de partage.
Je vais chercher du bois.
Non, ça pas beaucoup, je te casse pas la tête. Ça a été Usenet. C'est-à-dire les groupes de discussion qui permettaient, à travers en fait un usage un peu. En fait, c'est une sorte de mail qu'on envoie à Usenet. Hein. Donc, c'était une pluralité de serveurs. Oui, enfin je dis fichier quoi, ouais. Fichier musique, hein. musique, ou
données
artistiques si tu veux, données. À partir de 95, qu'est-ce qui a émergé? C'est le peer-to-peer. En peer-to-peer, certains ordinateurs personnels ont les données, donc une pluralité d'ordinateurs personnels. À partir de 2000, BitTorrent une pluralité d'ordinateurs personnels dont chacun une partie de l'information. Ce stockage, c'est ce qu'on appelle du stockage distribué, hein, d'ailleurs se répand puisqu'on essaie de plus en plus maintenant d'aller vers des solutions. Par exemple, vos sauvegardes, vous les ferez en donnant à un centre de gens qui partagent avec vous des morceaux encryptés de vos propres données qui seront stockés donc sur une pluralité d'ordinateurs. Et c'est les technologies, merci Michel, les technologies qui émergent de stockage des données se font sur ce modèle-là, c'est-à-dire que vous créez un réseau, par exemple on décide tous que l'on partage, qu'on donne chacun 10 mégas de notre ordinateur pour la sauvegarde des données des autres, hein, et chacun d'entre nous envoie 10 fois des morceaux de ces données avec des systèmes de redondance, etc., et de cryptage, et donc nous partageons la sauvegarde.
Qu'est-ce qui va émerger en 2005? C'est probablement des versions complètement décentralisées de ce même paradigme. Il y a un ensemble de technologies qui assurent le fait que vous n'avez même plus de serveurs qui indiquent où se situent les fichiers, mais où chaque ordinateur non seulement stocke le fichier, mais stocke les pointeurs vers ces fichiers. Alors, un des grands mouvements qui a poussé évidemment cette bascule vers ce stockage distribué, c'est la bataille entre les maisons de disques et les maisons de contenu, hein, et les utilisateurs. En tout cas, c'est une évolution qui est très très symptomatique de ce qui a bougé dans le partage des données et dans le partage des contenus numériques. Alors, contenu numérique de films, de musique, là encore, au début, on partageait des MP3, depuis 4 ou 5 ans, on partage des fichiers compressés au format DivX, maintenant, on partage directement des DVD, dans un format non compressé, donc là aussi, on va avec...
Ton dernier cas, là, il y a aussi writing, c'est-à-dire le traitement de texte.
Je vais en parler. C'est vraiment autre chose. C'est l'écriture collaborative. Hein, c'est les outils collaboratifs en parallèle. Là, c'est vraiment du stockage. Hein, c'est le stockage, c'est les données numériques, etc. Bon. C'est transposable également au stockage de livres, etc. Ce partage, c'est aussi un partage d'informations et d'opinions qui s'est fait à travers ces outils que vous connaissez, qui sont les blogs. Hein. Alors, je pense que vous avez déjà eu 200 000 présentations des blogs. C'est peut-être pas la peine d'y revenir. L'idée essentielle est de voir ces outils-là à l'interface entre la fédération et la fédération de données venant de l'extérieur, qui sont regroupées, et la relecture personnelle de ces informations-là. Un blog est à la fois un outil qui produit de l'hyper-personnel, mais en même temps un outil qui amalgame et fédère un ensemble d'informations qui viennent de l'extérieur. Le blog a été pensé dès l'origine avec un ensemble de technologies qui permettent de surveiller et d'organiser sa propre mise en partage. Dans tous les blogs, vous avez la diffusion de canaux d'information au format RSS qui permettent d'en récupérer l'actualité, comme la présence de liens permanents qui permettent d'en effectuer la cartographie, ou encore ce qu'on appelle le trackback, c'est-à-dire un petit outil qui permet de savoir si vous êtes vous-même référencé par d'autres blogs ou d'autres outils, avec un paradigme qui est très intéressant du point de vue de l'articulation commercial et du particulier, à savoir que les grands éditeurs de blogs maintenant sont des éditeurs commerciaux, les grands hébergeurs de blogs, mais qu'ils adhèrent à un ensemble de chartes qui garantissent un minimum d'autonomie et une invasion contrôlée, disons, de l'espace personnel. Et je crois que c'est le grand paradigme qui est celui de Google, qui s'est d'abord imposé sur les blogs, qui est celui de l'acceptation d'une publicité, mais d'une acceptation contrôlée et d'une publicité à valeur ajoutée, hein, selon le paradigme de Google, à savoir que le filtrage d'information est a priori destiné à ne pas vous embêter avec des choses qui ne vous intéressent pas. En théorie. Donc, partage des blogs, partage des points de vue, bataille politique récente, vous avez vu, assez amusante entre le PS et l'UDF pour l'achat d'un ensemble de mots-clés. Vous allez voir ça, ça vous fait beaucoup amuser. Notamment parce qu'on a des systèmes de génération automatique de liens en fonction des contenus des blogs. Hein, donc un engagement très fort de ces blogs dans la mise en place de réseaux de points de vue, l'émergence de tendances et la création subséquemment d'outils permettant d'appréhender les tendances émergentes. Je pense à cet outil qui est Technoratis, qui permet de savoir qu'est-ce qui se passe sur ce qu'on appelle la blogosphère, hein,
la blogosphère, c'est la sphère de ces blogs, considérée comme un espace autonome. Partage de biens également, puisque la grande, le grand succès de l'Internet de ces dernières années, c'est eBay. Partage de biens et partage des conditions de qualification et de validation de ces biens, disons de tout ce qui fait normalement le commerce à travers les systèmes d'évaluation qui sont internes à eBay, où c'est la communauté qui assure en quelque sorte le, ce que l'État a assuré en garantissant les produits et, la loi, et ce que les lois et les outils de, traditionnels permettaient de garantir aux consommateurs. Ce sont les consommateurs entre eux, si vous voulez, qui qualifient un vendeur comme étant fiable et qui qualifient un acheteur comme étant solvable, voilà, comme étant solvable. Les sociétés commerciales se voulant intermédiaires et laissant une partie de la gestion des conflits aux communautés elles-mêmes, hein, telles qu'elles se constituent, avec notamment, une traduction française, des réseaux de confiance, hein, disons des chaînes de confiance qui permettent cette évaluation. Partage donc des idées, des points de vue, des biens, des fichiers, des données. Partage également des savoirs, et ça c'est un outil déterminant, c'est la question de Wikipédia. Hein, Wikipédia que vous connaissez tous, j'imagine, pour l'utiliser fréquemment. Vous savez que dans une enquête récente, on a demandé aux étudiants quelle était leur principale source d'information. Ils ont répondu à 97% Internet et à 3% les bibliothèques. Et dans cet Internet, c'est de plus en plus Wikipédia qui domine. Wikipédia qui est objet de controverses, puisque l'un de ses créateurs a quitté le navire en disant que on avait affaire à un lieu d'affirmation anti-élitiste d'hyper-démocratie où la valeur était la force de la masse, qui ne permettait pas d'offrir la garantie, et a voulu fonder un réseau parallèle fondé sur l'expertise et la validation de l'expertise. Partage de savoir dont on peut critiquer les effets pervers, les effets de les effets de constitution de nouveaux poncifs ou de nouvelles de nouveaux politiquement corrects, mais dont on peut louer quand même la richesse et le caractère utilisable. Une enquête très lourde faite par un magazine, je ne sais plus qui, par une revue scientifique récente, qui a comparé, en prenant au hasard 50...
Nature,
qui a comparé un nombre d'articles sur Wikipédia et de grandes encyclopédies, a montré que le retard de Wikipédia était tout relatif et que sur un nombre d'articles, les informations contenues dans Wikipédia étaient de très grande valeur. Wikipédia qui a essayé de se développer du côté d'un Wikipédia de l'information et des textes disponibles, on verra ce qu'il advient. Je ne sais pas si ces initiatives seront très suivies parce que des outils spécifiques de partage d'informations et des modes ont émergé. Wikipédia qui va de plus en plus se développer dans des versions personnalisées et qu'on va emporter avec nous-mêmes des wikis, puisque la grande mode et ce qui émerge en ce moment, c'est le fait d'avoir des wikis personnels qui tiennent sur des disques durs et qui reprennent un certain nombre d'éléments propres à la facilité d'utilisation de wikis, c'est-à-dire la possibilité d'hypertextualiser facilement n'importe quel texte l'intègrent à de simples pages web. Je n'ai pas le temps de vous montrer, puis de toute façon c'est pas mon détente, je ne peux pas le faire, mais on peut avoir une sorte de page web qui n'est même pas une application, mais qui contient avec du JavaScript le fait de s'éditer elle-même, et donc on transforme son propre wiki et on peut l'intégrer à un wiki en ligne. partage également des modes et des informations. Un des outils qui a révolutionné le web et qui est tout à fait intéressant du point de vue de l'évolution du web, c'est ce site qui est en train de devenir un des sites majeurs, qui s'appelle Dig. Qu'est-ce que c'est que Dig ? C'est un outil technologique. Alors, c'est un outil de surveillance des nouveautés en matière de technologie, mais aussi plus largement de nouveautés culturelles, médicales, aéronautiques et j'en passe, où se mêlent. Pourquoi on a des si grands caractères ? Une taille de texte normale, voilà, où se mêlent les informations sur un nouveau pulsar, des nouveaux jeux vidéo, et qui est en passe de devenir, je crois qu'ils en sont déjà au quatrième site le plus visité. Alors l'opposition qui est pertinente et qui est très intéressante, c'est entre le grand site web de la cyberculture, qui était Slashdot, que vous connaissez sans doute. Hop là. Alors qu'il y a toujours eu comme inconvénient d'être difficile à taper. Qui a joué un rôle tout à fait considérable, notamment dans la protection des droits des internautes, et qui était classé numéro 5 ou 6, enfin c'est un des sites web les plus visités au monde. Qui fonctionne de manière largement communautaire puisque il fonctionne sur le mode des commentaires, c'est-à-dire que quand on a quelque chose à dire, on peut le mettre sous forme de commentaires et ces commentaires se structurent, il y en a parfois des centaines. Alors c'est très intéressant, vous pouvez lire les commentaires de Slashdot. C'est des choses qui sont extraordinairement lues. J'ai une page sur l'internet en Chine, sur Slashdot, elle a 500 000 lecteurs très facilement, donc qui configure et qui dirige l'opinion de manière tout à fait considérable à l'articulation de la culture et de la technologie, de la surveillance des droits politiques et de l'intérêt à la mode pour la première société commerciale qui émerge, donc à l'alternance du à l'interface, mais parfois très troublante, entre le rêve de gratuité, le ciel libre et la mode pour la dernière console et le dernier outil technologique ultra cher, donc entre le commercial et le gratuit, entre la défense des droits et l'intérêt pour des outils de plus en plus puissants et de plus en plus intégrés. Donc ce Slashdot se voit supplanté par Dig dans un combat ou une opposition qui est devenu un objet de réflexion, hein, puisqu'il voit le passage d'un outil qui est partiellement communautaire par les commentaires, mais qui n'est pas totalement, parce qu'il y a une élection d'ensemble de rédacteurs de Slashdot qui se fait avant la rédaction, à un outil qui est complètement décentralisé et communautaire, puisque pour avoir votre histoire, le but c'est d'avoir votre histoire à la une de Dig pour être lu par tout le monde. Pour ça, vous devez la mettre en ligne avec des mots très spectaculaires, avec des mots qui frappent, en faire beaucoup, avoir des listes d'histoires qui sont très visitées par d'autres utilisateurs, et donc avec des effets de masse, des effets de convergence des choses très spectaculaires. Et des sites qui eux-mêmes demandent de plus en plus, avec un petit logo, qu'on digue leur histoire, c'est-à-dire qu'on l'annonce à la Lune. Et donc ce site est en train de devenir le site le plus visité au monde, derrière CNN et Google. Donc un site d'importance déterminante. Vous voyez, si vous voulez, du point de vue de la cyberculture, hein, les trois paradigmes. D'abord, la grande revue intellectuelle qui était Wired, qui continue d'exister, qui fait du vrai travail journalistique, qui continue d'être très importante. Sur papier, qui existe sous forme papier aussi, absolument. La revue complètement en ligne, très liée à la communauté du logiciel libre, d'affirmation des droits, de Slashdot. Et ce grand site, totalement gouverné par l'anarchie, les modes, le spectacle, mais aussi qui permet de sortir des informations, mais très très originales parfois. Hein. Parfois, pour vous faire remarquer sur Vig avec le grand cirque, pourquoi pas, hein, avec des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire, par cette ultra-démocratie. Qui est le fait que personne n'ait plus de pouvoir sur Vig que celui qui poste souvent des nouvelles et sait les mettre en valeur par des mots-clés et constitue son propre réseau de modateurs et de relais. Donc, partage donc d'informations, de savoirs, de valeurs, partage également de liens et d'évaluation de ces liens. L'autre grand outil emblématique de la deuxième génération du web. Je ne suis pas trop technologique, mais je ne m'écarte pas trop des humanités, ça va ?
On attend les humanités.
J'ai pas le fond du coup
Wired. Wired, je ne sais pas comment mon anglais lamentable.
W-I-R-D.
Branché. Ok. Il faut que je parle des humanités. Je suis censé faire des études de lettres.
J'y arrive.
Faut que j'y arrive, d'accord. Non, ben, je vais assumer le fait de beaucoup vous parler de choses qui sont de la cyberculture, parce qu'on aura dans les humanités, dans 5 ans, ce qu'on a actuellement dans la cyberculture. Hein. Donc je vais vous montrer des choses, au fond, il faut que j'assume. Je vais vous montrer des choses très en pointe techniquement, culturellement, etc. Et on en verra bientôt les conséquences, et on pourra en projeter, en fantasmer les conséquences dans notre champ culturel, en discussion si vous voulez. L'autre grand site absolument passionnant, emblématique de la cyberculture, c'est dell.issue.us. Delicious, qui est un outil maintenant irremplaçable. Qu'est-ce que c'est que Delicious ? C'est la mise en partage de vos marque-pages. Alors, il y a un genre de concurrent qui émerge, je ne sais pas s'ils vont gagner ou pas, Blogmarks, etc. Et Yahoo, qui a un rôle, qui essaye en ce moment, dans un nouveau combat contre Google, de racheter un centre de sites appartenant au web de deuxième génération, qui est en train d'essayer qui a racheté, je crois, Delicious, et qui est en train d'essayer de développer ses propres outils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, vous mettez en ligne vos mots-clés, et vous les mettez en ligne, quand vous les mettez en ligne, vos mots-clés, vos pages web, vous les mettez en ligne avec le fait qu'elles ne sont plus privées. C'est-à-dire que, par exemple, vous créez un utilisateur, et moi j'ai mis mes ensembles de hopla, pardon. Un ensemble de mots-clés en ligne qui sont organisés, je vais en reparler, par ce qu'on appelle les tags, hein, qui sont en fait des marqueurs. Donc par exemple, je ne sais pas moi, sur le web 2.0, vous voyez, hein, j'ai un ensemble de marque-pages qui sont accessibles par une adresse très simple. Hein, des adresses explicites, c'est aussi très symptomatique du web 2.0. Ça tient aussi à la manière dont Google indexe les choses, mais c'est aussi très symptomatique. Et si vous voulez, vous avez donc l'accès de mes propres mots-clés. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que à partir des mots-clés que vous constituez sur tel ou tel sujet, vous pouvez rebondir sur les outils populaires. C'est-à-dire que sur ces mêmes mots-clés, je peux savoir quels sont les gens, les sites les plus populaires sur le web 2.0 ou les sites les plus récents, et je peux aller sur les mots-clés de quelqu'un d'autre quand ça marche. Hein? Je peux aller sur les mots-clés de quelqu'un d'autre, je peux savoir les recommandations d'autrui, ça passe pas très bien, je peux savoir qui d'autre a recommandé tel ou tel site. Par exemple, je peux savoir que là, j'ai 2242 autres personnes qui ont recommandé aussi ce site-là. Je peux consulter, savoir qui est-ce qui a consulté ça, et voir donc des gens qui iraient dans la direction de ce que je fais. Je peux savoir, par exemple, que ce monsieur-là, il a recommandé ça. Accéder à ses bookmarks, si j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait une veille intellectuelle particulièrement bien, et je vois ce que ce monsieur recommande, et je vois ses propres mots-clés. Alors, si vous voulez, qu'est-ce que vous avez comme combinaison ? Vous avez la combinaison entre un outil qui est pratique pour son propre organisation personnelle, et un outil qui devient immédiatement un outil de mise en partage, et qui permet immédiatement de désigner des tendances. Hein ?
Donc vous avez une congruence tout à fait étonnante entre le besoin d'avoir un stockage personnel accessible, des outils de travail, et le fait qu'il y ait une rentabilité communautaire de cet outil, qui est avant tout un outil à l'origine personnelle, hein, de stockage. C'est un modèle qui est absolument déterminant pour comprendre l'articulation, je crois, dans le Web 2.0 entre le privé et le public. Oui.
C'est juste pour reformuler, pour être sûr à Adam Bose, parce que ça m'intéressait beaucoup. Donc là, en gros, à droite, les tags, mettons que ce soit ta webbiographie, les sites que tu as archivés qui t'intéressent.
Ouais.
Et en fait, on sort de ta bio pour aller voir ce que d'autres gens...
Ce que d'autres gens ont considéré comme bio sur l'autre sujet. Alors, comment les mots-clés se font et comment on fait qu'on rebondit sur les mots-clés? Ça tient au fait que quand on entre un site dans Delisu, je vais le faire parce que sinon on va pas y arriver. On a un système d'autosuggestion des mots-clés qui est déterminant. C'est très 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 important, vous allez comprendre. Non, on peut mettre les mots-clés, les mots-clés, si tu veux, en français, etc. Il y a des équivalents de Delicious en français. Si je veux, par exemple, indiquer dans Delicious un nouveau site, les mots-clés me sont autosuggérés. Ça, c'est un des grands aspects du web, du web de deuxième génération, qui se base sur une technologie que je vous présenterai tout à l'heure. Ça s'appelle Ajax. Je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Voilà, si je fais edit, on devrait le voir. Si vous voulez, vous avez pour ce site web des tags qui ont été recommandés par autrui, automatiquement mes propres tags, et surtout un système très pratique qui fait que quand je commence à taper une lettre, j'ai des autosuggestions qui me font gagner un temps considérable, et surtout en allant vers la limitation du vocabulaire, permet d'avoir des points nodaux. Et je vais parler de cet axe, c'est fondamental dans le web de deuxième génération. Ce qui ne s'est pas imposé, ce ne sont pas des sémantisations, des cartes sémantiques qui feraient que vous auriez des structures ontologiques avec tel élément, tel sous-élément, etc. Non, c'est des analyses statistiques et des analyses fondées sur ce que les gens utilisent concrètement, qui ont créé ce qu'on appelle des foxonomies, ce qui s'oppose aux taxinomies, hein, les foxonomies. C'est une manière de créer sur la base, folk c'est le peuple hein, en anglais, hein, sur la base de ce que les gens utilisent et ce qu'ils utilisent démocratiquement, des mots-clés de repérage. Autrement dit, c'est une taxonomie fondée sur le peuple. Hein, c'est une taxonomie communiste, pourrait-on dire. Et pardon,
c'est la fin des experts.
Autrement dit, la taxonomie, elle se fait parce que on a repéré que les mots clés commençant par LI les plus utilisés étant ceux-là, et parce que d'autres personnes ont déjà utilisé pour qualifier ce site web prix littéraire du terme de littérature, etc. Hein? Et donc vous voyez comment ça fonctionne. Vous gagnez vous de la communauté des informations nouvelles, parce que vous pouvez rebondir trouver d'autres sites, et vous gagnez des outils d'organisation personnelle de la communauté qui vous fournit des mots-clés pré-organisés.
Par curiosité, tu voudrais bien mettre un B juste après LI, je serais curieux de voir s'il y a liberté. Pour voir un petit peu
les mots-clés
plutôt qu'ils utilisent des choses.
Voilà, c'est un site anglophone. Et,
La Liberty. Oui, Freedom, d'accord. Ouais.
Ça, c'est dans les miens.
D'accord.
Dans les miens.
C'est vachement marrant. C'est impressionnant.
Alors, ça, je vais reparler de ce qui permet de faire ça parce que c'est au cœur du web. C'est ce qu'on appelle la technologie Ajax. Qui va changer votre rapport à la culture, vous allez voir. C'est un outil donc de social bookmarking où, comme je l'expliquais, vous gagnez à faire partager vos informations en termes d'organisation personnelle, et la communauté gagne à ce que vous organisiez vos propres informations. Au fond, on n'est pas très loin de ce qu'avait fait l'énorme succès de Google, à savoir le fait que ce qui faisait la valeur d'un site,
c'était le fait que le site était recommandé par d'autres, et ce qui se dégage aussi bien dans un site comme Dig et comme dans un site comme Delicious, c'est une dynamique ou un cercle vertueux entre les besoins d'auto-organisation, de classement personnel et ce que la communauté a gagné. Hein. Entre votre quête de valeur et les valeurs que vous donnez à la communauté, vous cherchez des valeurs dans le domaine de la qualification de tel ou tel bon site, de tel ou tel bookmark intéressant, de telle ou telle information novatrice, eh bien vous pouvez vous fonder sur la communauté en l'inscrivant dans votre propre logique, dans votre propre espace personnel. Vous utilisez des outils qui rendent à la communauté tout entière ce que vous avez mis dans votre espace personnel. Alors, c'est déjà impressionnant pour les bookmarks, ça l'est encore plus pour cet outil extraordinaire et encore plus paradigmatique, c'est-à-dire retenir un outil du Web 2.0, ça serait celui-là. C'est un site qui s'appelle Flickr, que vous connaissez peut-être. Qu'est-ce que c'est que Flickr ? Ça vient d'être acheté sur Yahoo. C'est le fait que ce paradigme d'une mise en partage par des taxes d'informations, il est attendu à des photos. Alors, il y a maintenant on essaie de faire ça pour des vidéos, etc. Mais celui qui a vraiment impressionné tout le monde, c'est Flickr. Pourquoi ? Parce que ça fonctionne de la même manière. Vous avez des taxes qui sont organisées. Voyez, ça, c'est typiquement une fonction monomie. Plus ils sont utilisés, plus ils sont grands. Alors, sur quelle tag je clique ? Sur Paris. Sur Paris, je vais avoir toute une série de photos de telle ou telle personne qui vont mettre en ligne leurs propres photos en les taguant. Le fait que ça sera vu et réutilisé sur d'autres sites fera que ça sera classé dans les most interesting, parce que tout ça génère des flux RSS, des flux que vous pouvez utiliser sur d'autres sites. Et vous avez, vous pouvez aller voir par exemple les photos de cette personne-là qui vous a intéressé. Hein. Vous pouvez voir ce qui l'intéresse, vous pouvez voir ses propres taxes et ce qui l'intéresse le plus. Hein, toutes ses archives, les sites qu'il préfère, le spectacle, etc.
Quand il y a marqué « This photo is public », ça veut dire qu'on a le droit de la reproduire ?
Alors, non, ça veut dire que tu as un mode d'accès à Flickr qui te permet d'avoir des photos réservées par exemple pour ta famille ou pour une personne, etc. Là encore, ce qui a émergé, ce sont des gradations entre le public et le privé, puisque vous pouvez, dans Delicious, tout est forcément public, mais les gens ne peuvent pas éditer vos propres pages. Si pas encore édité bien, vous pouvez éditer les pages des autres. Dans Flickr, comme il s'agit de photos, vous avez la possibilité de marquer des photos comme privées, semi-privées, pour seulement pour les personnes enregistrées, sans possibilité de réemploi, etc. Et de même, gradation entre le gratuit et le commercial, c'est vraiment le paradigme émergent. Vous avez des usages gratuits, vous avez, je ne sais pas combien, 1 giga de stockage de données, ou d'ailleurs, c'est même pas le stockage en soi, c'est l'usage. C'est le trafic qui est facturé. Hein. En dessous d'un giga de trafic de photos mises en ligne, c'est gratuit, quel que soit le nombre de personnes qui consultent vos photos, qui permet qu'avec quelques photos, vous ayez un énorme succès gratuitement. Et ensuite, vous payez telle ou telle somme pour avoir plus de photos en ligne. Donc vous voyez, en fait, c'est gratuit lorsque vous produisez beaucoup de choses très intéressantes et destiné à tout le monde. Lorsque vous voulez stocker beaucoup de données pour vous-même, ça devient payant. Plus c'est partagé, moins c'est cher. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi tout à fait déterminant et qu'on retrouve dans ce système de stockage en ligne collaboratif. Plus vous mettez de ressources de votre ordinateur à disposition quand vous faites du stockage collaboratif, moins vous avez à payer. Et vous avez le choix entre soit accepter de la publicité, soit accepter de partager vos ressources et être dans le domaine gratuit, soit vous considérer comme un individualiste égoïste qui considère qu'il a le pouvoir de l'argent et qui paie les ressources pour être dans le domaine privé sans publicité, sans avoir à partager ses informations.
C'est pareil, un peer-to-peer. Plus on partage et plus on peut tirer, disons, sur la
banque. Absolument. Et ça, je n'en parlerai pas parce que d'abord tout ça est totalement illégal et je suis même étonné qu'on n'en parle pas dans le séminaire d'université. Ça sous-entend qu'on n'ait plus utilisé ce genre de choses.
C'est un jour de
grève. Ça sous-entend que je n'ai plus dans la pratique suivre ce que c'est que le rapport upload-download. Hein, et ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne pas, et je pense que c'est une connaissance purement théorique.
Oui, j'ai étudié ça dans les clés de moi.
Bon, très bien.
C'est toi qui ne
vois
pas.
Oui, c'est moi qui ne vois pas. Donc, découverte en commun de ressources, découverte en commun d'informations, constitution de mode, je n'ai pas parlé de sites qui font l'équivalent pour tel ou tel domaine particulier, j'ai évoqué les grands sites génériques qui configurent le web de deuxième génération. Je vais parler maintenant de la personnalisation.
Hein? Je vais poser une question. Ouais. À propos de Flickr, donc c'est un partage d'albums, enfin de photos, ouais, que les gens ont mises.
Ouais.
C'est pas comme dans Google Photos, une indexation de photos.
Non. Google Photos, c'est un moteur de recherche, ouais, qui indexe des photos qui sont déposées sur des sites web. Dans Flickr, tu dois mettre toi-même tes photos.
Voilà,
autrement dit, tu considères, comme beaucoup de gens, que de plus en plus, ton unique application, c'est le web. Tu n'as pas envie de charger Picasso, tu n'as pas envie de charger photo album, machin truc. Donc tu considères que tu vas mettre tes applications sur le web. Tu as tes photos, tu les partages entre celles qui sont d'intérêt public et celles qui sont d'intérêt privé. Hein, et tu mets en ligne avec Sambo Tag tes photos du Japon qui peuvent être intéressées à la communauté. Et tu te retrouves parfois propulsé, ta photo a un intérêt artistique. À la première page de Twitter, qui est la nécessité de communiquer, bon, tu ne gagnes rien. D'ailleurs, c'est un des grands reproches qu'on a fait au web de la deuxième génération, c'est que tout ça, derrière tout ça, il y a beaucoup de sites commerciaux qui exploitent de manière éhontée le travail des communautés. Hein,
est-ce que Google indexe ces pages-là ?
Je ne sais pas si Google indexe Twitter. Flickr a été racheté par Yahoo.
J'ai fait des recherches de photos avec Google et je ne suis jamais tombé sur une page.
Ah ouais. La grande bataille, c'est Yahoo contre Google. Yahoo reprend en achetant un ensemble de sites une politique très agressive en ce moment de combat contre Yahoo qui lui essaye d'envahir le poste de travail. Maintenant, parlons justement de ces outils de personnalisation. Qu'est-ce que ça veut dire la personnalisation ? Ça veut dire que je peux me constituer de plus en plus des outils d'accès au web qui le personnalisent de manière extrêmement simple. Alors, qu'est-ce que c'est, par exemple, le site le plus connu du web de la deuxième génération ? C'est un site français, on a un peu d'honneur d'innovation, mais là, c'est bien le cas. C'est un site qui s'appelle NetWatch, dans lequel vous avez la possibilité de constituer une page d'accueil d'une manière extraordinairement souple, où vous pouvez intégrer à la fois des flux, donc des flux RSS, mais aussi un outil de recherche que vous pouvez ajouter à votre page. Avec ce site assez génial que ça se déplace facilement, vous constituez votre page comme ça. Vous pouvez rajouter la météo, ça je l'ai fait. Vos boîtes de réception Gmail, Yahoo Mail, Pop Mail, c'est-à-dire du mail, et des notes, hein, et que vous retrouvez sur n'importe quel ordinateur.
Cette page a quel type d'adresse ?
NetWise.com, c'est pas identifié par un cookie. C'est privé.
C'est sur l'ordinateur. C'est du privé. D'accord. On ne peut pas d'un site renvoyer une page fabriquée comme ça.
Non. Et vous pouvez rajouter. En fait, vous avez là une sorte de top 5 de ce qui se fait de plus à la mode en site internet, les photos Flickr. Par exemple, là, vous voyez, il en propose un qui s'appelle Colorful. C'est la photo la plus colorful que je mets sur ma page d'accueil, qui va changer tous les jours. Des to-do, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des feuilles ou Outlook, je vais marquer les choses que j'ai à faire. Je sais s'il y en a. Blogmars, c'est un concurrent de Dalicious, évidemment Dalicious. Et des vidéos de Foursquare. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, ils veulent une demande d'utilisateur.
Là, tu peux les enlever toi-même.
Tu n'es pas obligé de les mettre, si tu veux, c'est quelque chose. Tu te fabriques, si tu veux, ton portail.
Donc, on va de plus en plus vers des outils de personnalisation et de pages personnalisées, en fait. Google essaye de faire pareil. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on accède à une très très grande souplesse, hein, dans la manipulation, dans la construction de cette page-là, qui a un caractère privé. Hein, ce sont des pages qui ont un caractère privé.
Yahoo avait commencé il y a 4 ans déjà.
Voilà. Mais ça n'a pas émergé tout simplement parce qu'il manquait la technologie permettant facilement de construire cette page. Là, c'est extraordinairement simple. Et ce qu'il y a aussi de novateur, je crois, par rapport à Yahoo, si tu veux, c'est que ça s'appuie sur des flux que tu peux introduire, mais aussi des annaires de flux qui sont disponibles et des sélections qu'il te propose. Donc, autrement dit, le choix et la construction de page est pré-facilité. Alors, je monte Netwise, il y a 5 ou 6 grands concurrents, hein, je n'ai pas le temps de montrer, mais c'est une des grandes, un des grands outils de personnalisation. Ah oui, il y a aussi. Je vais l'évoquer maintenant. Comme vous l'avez vu, je vais enlever ça. Le modèle économique d'une page comme OneNetWeb se cherche encore. Il n'y a pas de publicité, mais il y en aura sûrement. Il y a sûrement une version payante. Il n'y a pas encore de modèle économique clair. Hein. L'un des aspects que vous avez pu remarquer dans cette création de pages personnalisées, c'est le fait de pouvoir mettre des notes, des choses à faire, des calendriers, là on ne le voit pas sur NetWipes, ou encore des documents. Parce que lorsque je vous disais tout à l'heure qu'un certain nombre d'applications conçues sur les postes de travail basculent sur Internet, c'est vrai pour le mail, on l'a dit, mais c'est vrai de plus en plus pour des calendriers ou encore pour des notes ou des outils de travail collaboratif. Alors là, je vais revenir à mon Delicious, parce que je ne connais pas les adresses par cœur. Vous voyez, vous avez une partie de ma vie exposée devant vous et des intérêts tout à fait passionnants. Il y en a un que j'aime bien comme que je vous montre, c'est ce qu'on appelle en anglais les life hacks. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, c'est un site de productivité personnelle, je me suis amusé à regarder ça. Ça veut dire que ça marche vraiment pas très bien. Ça veut dire qu'on considère qu'il y a de même qu'il y a des hacks dans votre ordinateur, il y a des choses que vous pouvez améliorer, mieux dans un exposé à Hubert de Falaise, être mieux cuisiner les pâtes au pesto, être un meilleur amant, enfin je ne sais pas quoi. Et donc on regroupe ça dans des choses qui sont sur l'amélioration d'ordinateur grâce à des trucs pratiques. C'est le sens très 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 pratique et simple, enfin le sens des choses efficaces des anglo-saxons là qui domine. Alors non, ce que je voulais vous montrer, c'était d'autres mises en partage dans la création de portails personnels ou disons semi-personnels lorsqu'il s'agit de petites communautés. Je dois avoir mis quelque part une liste de d'applications. Voilà, ce best web tool.0 software. Je vais pas y arriver si l'internet marche pas là. Bon, alors fermez les yeux. Imaginez un calendrier qui serait votre agenda personnel, qui serait complètement en ligne. Fermez les yeux. Imaginez qu'à côté, vous puissiez mettre des pense-bêtes, des notes. Imaginez que vous puissiez mettre à côté des choses à faire. Et imaginez aussi un traitement de texte et un logiciel de tableur. Alors, nous, on ne concerne pas beaucoup. Qui vous permettrait d'éditer à plusieurs des textes pour les rédiger ensemble. Hein. Cet outil très très innovant s'appelle Vitaly, hein, tu en parlais tout à l'heure. C'est un outil qui permet de partager un texte et de faire des romans collaboratifs pour ceux qui en rêvent, mais avant tout des textes d'équipe, hein, des textes techniques, de manière très souple tout à fait agréable sur le web. J'espère que ça va marcher.
La différence entre un wiki synchronisé.
Alors la différence avec un wiki,
elle n'est que... Elle est de plusieurs ordres. Un wiki, c'est pluridocument. C'est un ensemble de documents, tandis que là, on travaille sur un texte unique. Et le wiki est toujours ouvert, enfin, presque toujours ouvert, tandis que ces outils collaboratifs, qui sont finalement l'extension de ce que Microsoft voulait faire avec les fonctions de partage de documents Word, etc., sont destinés à des communautés plus restreintes ou à plusieurs personnes. Enfin, autre. Non, pas forcément, mais tu t'identifies par divers aspects. Autre aspect, autre différence fondamentale, c'est que Wiki impose l'utilisation d'un langage spécifique, une édition de page, hein, assez simple à acquérir, tandis que Writerly se fonde sur une interface qu'on appelle WYSIWYG, c'est-à-dire What You See, What You Get, qui vous permet d'éditer avec les italiques, de manière beaucoup plus simple, sans langage spécifique. Et si tu veux, c'est un aspect du modèle Wiki qui est en perte de vitesse, qui va probablement complètement disparaître, qui est l'utilisation de ce langage intermédiaire, alors que maintenant de plus en plus, des outils qui vous permettent d'éditer en riche texte directement sur les pages sont disponibles. Ça me permet d'arriver aux aspects technologiques et tout ça, technologiques et conceptuels, parce que je ne peux pas développer de manière très lointaine. Si je voulais aussi parler toujours dans les aspects personnalisation, articulation entre le personnel et le collectif, de cet autre mode d'échange qui est inversement à la personnalisation, au fait de mettre en ligne des applications personnelles sur des pages web, le fait de faire descendre sur votre ordinateur des pages web, ça c'est une autre tendance lourde qui émergent, c'est ce qu'on appelle les widgets, c'est-à-dire des gadgets, que Microsoft essaie d'appeler des gadgets, que Mac a lancé avec la dernière version de votre système d'exploitation. C'est le fait que sur votre bureau, vous puissiez mettre des éléments de page web ou des éléments d'information extraits du web, donc qui s'intègrent à votre propre ordinateur. Autrement dit, dans un sens, vous pouvez faire remonter des flux d'informations personnelles et les stocker sur le web. A contrario, sur votre ordinateur, là c'est comme ça l'ordinateur commun, je ne peux pas montrer, vous pouvez avoir sur votre bureau par un seul bouton l'apparition de cartes météo qui vous intéressent, de sites de RATP, des dernières nouvelles du Gard de Falaise, etc. Hein?
C'est différent de ce que Microsoft s'appelait les chaînes à l'époque de l'apparition de Windows 98.
C'est pas extraordinairement différent. Ce qu'ils appelaient les chaînes, c'était le fait de mettre sur son bureau, mais ça n'a jamais vraiment marché, des composants type X. En revanche, ça marche extraordinairement bien. Ou les radios, etc. Et si tu veux, ce qui est déterminant, c'est que c'est intégré nativement des outils. Au système d'exploitation, c'est intégré nativement à la dernière version de OS X Tiger. Vous avez un bouton et vous voyez apparaître les widgets, et ça sera intégré complètement à la future version de Windows qui sortira en septembre. Windows donc en fait, la version Vista maintenant, c'est son nom officiel. Windows Vista. D'ailleurs, Microsoft travaille sur le fait que ces widgets soient à la fois en ligne et sur votre bureau, avec des outils d'échange autour d'un nom de domaine qu'il a racheté, live.com. Vous pouvez déjà créer vos widgets. Je crois qu'on peut les voir d'ailleurs sur live.com. On peut faire l'expérience. Et vous pouvez ensuite déplacer Windows Live Beta. Vous voyez, c'est un peu le même principe que des Discuss. Vous pouvez ajouter des contenus, ajouter votre mail, de la météo, des loisirs, etc. Et ça sera intégré avec Vista, donc vous pouvez déplacer en fait des choses qui sont sur le web sur votre propre ordinateur personnel et inversement. L'autre élément d'intégration entre les deux surfaces, peut-être que le concept pertinent c'est de parler de surface, parce que avec les widgets et par exemple ici vous appuyez sur un bouton, vous avez une surface qui s'appuie sur votre écran. L'autre élément d'intégration, à part ces surfaces, c'est l'intégration des données de recherche. Là, le paradigme et le coût est donné par Google et Google Desktop. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, vous savez tous ce que c'est que Google Search ou les outils de recherche sur votre ordinateur personnel. C'est le fait d'avoir un petit moteur de recherche
sur vos machines. Eh bien, qu'est-ce qui se passe de nouveau? C'est que maintenant, lorsque vous installez Google Search, vous avez dans une page de recherche Google, à côté des résultats sur le web, les résultats sur votre ordinateur, et dans une nouvelle version qui vient de sortir il y a 15 jours, mais qui est extrêmement controversée.
Sur l'ordinateur des autres.
Sur l'ordinateur des autres, c'est-à-dire en tout cas le fait que vos contenus de documents soient exportés sur Google de manière encryptée, de sorte que vous pouvez avoir depuis cet ordinateur-là, si j'avais un compte Google, et si j'utilise ça, moi je ne pense pas en vie, mais bon, je pourrais avoir les résultats de recherche sur mon propre ordinateur personnel, même s'il est déconnecté, tels qu'ils sont stockés sur Google. Oui, concret, mais là aussi, Google est soumis à de telles pressions, et c'est que son... Microsoft s'est fait faire la peau parce qu'il ne respectait pas les droits personnels et a dû retirer tout ce qu'il avait pu essayer de faire qui allait dans le sens. Donc je veux dire, il faut estimer aussi la défense hein, et les communautés comme étant parfaitement capables de voir le danger. Et si tu veux, à peine Google Desktop Search a été lancé, qu'il y a eu un mouvement, une levée de boucliers considérable. La Free Software Foundation extrêmement puissante a estimé qu'il n'y avait pas assez de garanties, etc. Donc, si tu veux, les réponses et les défenses et les moyens de contrôle soumettent les big brothers, si tu veux, à des contre-pouvoirs. Et puis, les big brothers, Google, ça s'est inventé par quelques étudiants en thèse. Netflix, c'est quelques Français qui ont essayé de s'occuper. Enfin, si tu veux, les choses s'inversent très vite. Hein. Google peut devenir le prochain Netscape très vite. Enfin, tu vois, je veux dire, les choses ont une mobilité. Et disons qu'il n'y a pas encore d'effet de monopole et de contrôle super étatique encore net, parce qu'il y a, un tel mouvement, une telle force de réactivité, d'entropie, de créativité qui vient du livre, du communautaire, un tel amour du partage, du livre dans tous les utilisateurs, tous les inventeurs d'Internet, qu'on peut espérer qu'il y ait encore beaucoup de contre-pouvoirs.
Parce que les mêmes qui se plaignent utilisent sans doute Casa ou Inmule, dans lequel un de leurs dossiers est entièrement partagé par le monde entier,
oui.
Et où on peut prendre ces documents. Donc, bon, c'est peut-être ça a été mal présenté ou présenté sans trop de précautions, mais
ouais.
On peut imaginer que ça va quand même se développer.
Oui, on fait souvent comme ça, on met en ligne des trucs infinis, et puis après c'est sur les mouvements.
Absolument. Alors, c'est effectivement un des aspects de cet échange avec les utilisateurs, c'est que de plus en plus maintenant, on n'hésite pas, on raccourcit la chaîne et on met en ligne des bêtas. Ça s'appelle des bêtas, il y a des versions non finies. Et de plus en plus, les développeurs sont en contact direct avec le public. Là, c'est une grande nouveauté de Microsoft qui a été jugée tour d'ivoire, qui a fait maintenant ces grands outils de développement, la nouvelle version d'Internet Explorer, et ses propres blogs, et que les gens interagissent de manière beaucoup plus courte avec les développeurs des outils qui ne sont plus dans des bureaux inaccessibles. Donc, un des aspects positifs du blog, c'est de raccourcir la chaîne entre l'outil et la réaction de ses utilisateurs, hein, de penser de manière moins monolithique et évidemment d'agglomérer le plus possible les énergies du libre. Hein, Google fait son argent en utilisant Linux, parce que tous les ordinateurs Google sont sous Linux, mais en contrepartie rend une partie de son savoir-faire et de ce qu'il fait à Linux en publiant des bris de ses systèmes en les rendant à la communauté en tout cas en partie. Hein. Donc, si vous voulez, il y a une exploitation des serveurs des communautés, mais c'est des grands outils en même temps qui sont quand même qui rendent service à tout le monde, si tu veux, et qui rendent service énormément aux développeurs de Linux, etc. Donc, il faut être très très prudent dans tout ce qui serait une vision manichéenne du web qui serait soit un champ pur d'exercice des fonctions dégagées des contraintes matérielles et engagées dans un projet. D'une communauté universelle utopique, ou au contraire de penser que c'est une bataille de groupe de pression, ça se situe, si tu veux, quelque part entre les deux, ou de temps en temps d'un côté, de temps en l'autre. Alors, j'ai déjà été très technologique et très peu littéraire, je vais être encore plus, et parce que je vais évoquer les grands outils technologiques qui permettra de finir et de rebondir sur l'application à la littérature. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quelles sont les technologies utilisées? la technologie la plus importante, c'est la technologie qu'on appelle AJAX, A-J-A-X, qui est une, la réexploitation de vieilles technologies comme le JavaScript pour la création de pages qu'on configure très rapidement, qui sont éditables très facilement. J'espère que si ça marche, je vous montrerai Writerly, parce que c'est un des très bels exemples de ce qu'on peut faire avec AJAX. Ah, ça a l'air de marcher. Alors, pam. Alors, je vous montre Mouflex quand même, c'est marrant. C'est aussi une bonne démonstration. Oh là là. Est-ce que Writerly marche? Pourquoi je tombe pas sur Writerly tout de suite? Je tombe sur Roland Barthes. Qu'est-ce qui nous embête, ces littéraires? Je dois faire. Non mais si je laissais parler mon cœur, je dirais que la raison numéro un que je dis au réseau du PC Frac, c'est d'exiger une technologie parfaitement opérationnelle à la hauteur de ce que c'est que
moderne.
Ça va marcher dans ce
moment. Quand on introduit la
mise en scène, c'est marqué juste en dessous easy to set up, fast, free.
Ouais.
Bon, l'essentiel,
c'est que ça
marche. Voilà. Chez
nous,
vous faites confiance.
Oui. Non, moi, j'ai testé vraiment sans connaître, et ça a très bien marché. Les étudiants qui ont fait des dossiers.
C'est un problème de DNS, apparemment. Oui, je sais ce qui se passe.
Ça les a.
Vous n'êtes pas en révolte?
Non, mais c'est ça arrive. Ah, oui, c'est ça, parce que j'ai demandé à un gars qui m'a dit non, je sais pas.
Je sais, je vais aller voir où ça parle. Vas-y avec son beauté, viens pas.
Non, je m'énerve.
Mais ça va finir par marcher. Hein, si
on, on va regarder ce soir.
C'est une grande école de patience.
Bon. Alors, donc, cet outil, ces technologies qu'on vous fait nous à Jacques, qu'est-ce qu'ils permettent? Ils permettent d'écrire très rapidement, d'avoir des suggestions de mots-clés, d'avoir toutes les aménités que vous offrent des logiciels performants sur votre bureau, de les avoir sur des pages web. D'avoir des fenêtres sur le web que vous pouvez déplacer, comme tout à l'heure dans NetWipes, de pouvoir fermer et ouvrir des mini-fenêtres, de pouvoir réorganiser votre information. Et en fait, c'est une technologie qui masque le fait que vous deviez rafraîchir une page, si vous voulez. Autrement dit, normalement, vous pouvez toujours déplacer aisément une page ou écrire en ligne, mais grâce à cette technologie-là, tout se passe sans que vous ayez à rafraîchir la page. Hein. Si vous voulez, c'est la je ne sais pas, je ne comprendriez pas si vous êtes ce qui se passe derrière, mais l'essentiel est de comprendre, c'est que ça vous évite, si vous voulez, le rafraîchissement de la page, parce que c'est un mode de rafraîchissement qu'on appelle asynchrome, qui rafraîchit en temps réel la page et vous permet de manipuler l'espace de la page web sans délai d'attente. Hein.
Il y a quelqu'un dans la boîte qui clique tout le temps sur le bureau.
Oui, c'est à peu près ça, si tu veux. Si tu veux, ça veut dire en gros.
Que t'imagines ça.
Tu veux rentrer à l'état technique?
Non,
ça va bien comme ça. Si tu veux, en gros, je configure ma page dans NetWork en déplaçant mes fenêtres, si tu veux. Et en arrière-plan, j'ai des transactions cachées qui passent par, un protocole de transaction XML, qui fait que c'est mis à jour en temps légèrement différé sur le serveur central sans que j'aie à ressentir le délai.
Et alors, on peut retrouver l'historique, par
exemple. Alors ça, c'est un des grands problèmes des pages AJAX, c'est que notamment celles qui permettent de faire défiler un certain nombre de pages de manière beaucoup plus simple, je
ça vous les montrez. Elles ne sont pas marquables par des bookmarks, ouais. On peut difficilement retrouver l'histoire. Hein?
Avec quoi avec
non, mais en fait, c'est pas dans le même sens. C'est pas dans le même sens. C'est pas dans le même sens. Non, mais puis c'est pas dans le même sens que vous parliez d'historique. Là, tu pensais à la strate d'écriture du texte.
Oui. Oui.
Là, c'est simplement retrouver l'historique. Ça... Ah non.
Oui, je voulais dire ça. Retrouver toutes les étapes de l'écriture du texte.
Ah non, alors ça, c'est autre chose.
On ne peut pas faire de la génétique chose. Avec.
Non, mais tu peux en faire avec
l'outil. Oui, là, oui. C'est l'homme très commun.
L'homme très commun, là.
On peut même remonter en arrière.
Si les écrivains écrivaient à Wikipédia, on se changeait. On a toutes les strates textuelles, malgré ça. Bon, et non, ce que je voulais dire avant, c'est que les pages Ajax, comme elles n'ont pas besoin d'être rafraîchies, si tu veux, elles ne sont pas. Parfois, elles peuvent poser des problèmes de marquage, c'est-à-dire que les adresses ne sont pas apparentes. Autre technologie importante, c'est le RSS, ça je l'ai dit, c'est le fait de pouvoir exporter des petits éléments d'information. Dans un format standardisé, enfin, il y a des formats, mais dans un ou trois standards formats, pour pouvoir les réutiliser dans d'autres portails d'information. Et plus largement, ce qui permet, par exemple, au fait d'avoir dans un portail personnalisé des pages qui viennent de Flickr, c'est pas spécifiquement le RSS, c'est plus généralement le fait que les grands sites qui fournissent du contenu propose publiquement leurs API, c'est-à-dire le fait qu'elles indiquent comment elles peuvent être réutilisées pour d'autres applications. C'est-à-dire qu'en gros, tous ces grands sites vous disent, voilà, je m'appelle Flickr, je fournis des photos, voilà comment m'utiliser pour mettre un petit calendrier sur votre bureau ou pour me mettre dans votre application. Elles publient, en fait, des spécifications qui permettent de les manipuler, de les utiliser. Donc ça permet, par exemple, au fait qu'on intègre dans Firefox, à travers les extensions, des outils qui vous permettent de mettre à jour vos propres données sur Delicious, par exemple, à partir de barres de menu, ou qui vous permettent de publier directement vos photos à partir des barres de menu. Autrement dit, ce qui est de l'ordre de l'applicatif. La différence entre ce qui est dans l'applicatif sur votre disque dur des pages web a tendance à s'amenuire, la différence diminue grâce au fait que les pages web expliquent comment être manipulées par des applications et que les applications expliquent, peuvent intégrer facilement les pages web. Hein? Et du point de vue du développement, c'est vraiment ce qui se passe de plus en plus. Les sites publient les API qui permettent de les manipuler. Et les logiciels permettent nativement, les nouveaux langages de programmation, d'intégrer des éléments venant du web et permettant par exemple d'avoir, si tu veux, je sais pas moi, un traitement de texte logiciel dans lequel tu as des flux RSS directement dedans, par exemple. Ouais, typiquement. Alors, l'autre, du point de vue conceptuel, les grandes évolutions, alors, je les avais classées. Dans plusieurs domaines. Je vais parler rapidement, si on va avoir un peu le temps de discuter, des folksonomies, je crois que je les ai déjà présentées. C'est l'idée qu'on est en fait des hiérarchies, des catégorisations semi-structurées, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas purement statistiques, comme dans le cas de mots-clés non structurés, qu'ils ne sont pas des véritables taxinomies, avec des classements, des surclassements, etc., des ontologies, mais qu'ils soient des éléments intermédiaires, hein, où des analyses statistiques permettent de déterminer des mots-clés plus ou moins importants. Hein, et je vous renvoie à un très bon article dans Wikipédia sur les folksonomies. Vous voyez, typiquement, le fait de pouvoir interroger Wikipédia ou Google à partir d'une application, c'est le fait que Google indique comment l'utiliser et exporte son API. Ah oui, alors je suis tombé sur le folksonomy en français. Tiens, je ne savais même pas que ça existait. Alors, on peut peut-être avoir la page anglaise quelque part. Moi, je me refuse à utiliser Wikipédia, ou le moins possible, mais voilà. Hein? Donc, vous avez toute une histoire des folksonomies d'utilisation. C'est tout à fait extraordinaire, hein, comme
dans son caractère pratique, lorsque c'est intégré à des choses qui vous auto-suggèrent vos mots-clés, c'est un gain de temps tout à fait considérable. Hein. Pourquoi ? Parce que les Thoughts of Anony ont comme particularité par rapport à des taxonomies d'être non-exclusives. C'est-à-dire que vous pouvez marquer une page avec des mots-clés, parfois en mettant des pluriels, parfois des singuliers, parfois en faisant des fautes d'orthographe, parfois en anglais, parfois dans d'autres langues. Et mes mots-clés que vous aviez, par exemple mes pages que vous aviez dans Delicious, AGPN ou Web2.0, en fait certaines étaient marquées avec 4 ou 5 mots-clés. Donc, autrement dit, vous aviez une adresse ou Web2.0, une autre adresse où il y avait plutôt, par exemple, Ajax, et vous retrouviez certaines pages communes. Vous voyez le type d'organisation que permettent ces hiérarchisations non exclusives et semi-structurées. Hein. Donc, vous verrez.
Moi, c'est juste, j'aimerais un peu les métadonnées dans les bases données d'œuvres artistiques sur le web, et évidemment, la classification qu'on a donnée par
les gens. Alors voilà.
Il y avait une accumulation de.
Absolument. Et alors, on va en parler, je vais arriver à la conclusion. Hein. Je ne parle pas d'autres aspects du Web 2.0, notamment les modes esthétiques. Il y a toute une série de modes du Web 2.0 sur lesquels on peut parler. Les gros caractères, la police, bon bref, et puis d'autres aspects dont je n'ai pas le temps de parler. Quelques conclusions sur les enjeux en général et en particulier pour les lettres du Web 2.0. Alors, les difficultés et les limites du Web 2.0, souvent soulignées, sa complexité, le fait que ça ne soit pas une technologie unique, mais une hétérogénéité technologique, que une technologie comme Ajax fonctionne à la fois sur un vieux truc comme JavaScript et des choses beaucoup plus nouvelles comme l'utilisation d'XML pour les transactions, le fait que donc il y a une hétérogénéité de tout cela, qu'il n'y ait pas un modèle par lequel un site expliquerait comment on le manipule, mais 36 000 modèles, que ça peut varier. Le fait que le commercial et le privé, le commercial et le gratuit, le public et le privé se mélangent parfois de manière difficile ou problématique. Le fait que cette hyper-démocratie s'expose aux vieux dangers propres à la démocratie depuis Platon, enfin depuis les sociétés de Platon, à savoir la démagogie. Hein. Ces grands sites qui font, comme on dit, du hype, c'est-à-dire des choses à la mode, c'est aussi des sites très ça peut être des sites très démagogiques. Autre danger, le fait que souvent le commentaire et la
gueulage. Google en Chine.
Alors ça, c'est encore un autre problème. Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Ça, c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment un problème très politique. C'est un problème moral, c'est un problème très complexe. Ça relève pas à la question du droit de zéro. Autre problème spécifique à l'émergence du blog, c'est que les effets de récupération, de remise en réseau, de réattribution d'informations fait qu'on perd de plus en plus facilement la source d'information. Hein. De plus en plus souvent, je pense que vous êtes aperçu être obligé de faire 3 ou 4 sites avant de trouver une source primaire. Et ensuite avoir pas mal de mal à discerner si cette source primaire c'est un communiqué de presse, c'est un simple goodire, etc. Donc, du point de vue de la qualification des données, de la qualification intellectuelle, en termes de valeur, etc., les communautés font parfois écran et font parfois des modes qui s'opposent à l'expertise réelle et à l'articulation avec la vérité concrète, en tout cas si la communauté ne peut pas rétroactivement exercer son contrôle. Hein? Si une information n'est pas sourcée, n'est pas sourçable, et si il n'y a pas possibilité sur un blog de mettre des commentaires, là il y a du danger. Le danger peut être compensé par le fait qu'il y ait le contre-pouvoir pour la communauté et du commentaire sur le blog. Hein? Alors pour nous, là encore, n'ayons pas peur du Web 2.0 et intégrons d'abord un ensemble de choses. D'abord le fait que le Web 2.0 pousse et radicalise encore plus l'affirmation qui est déjà présente dans le Web. C'est-à-dire qu'une fois que le Web est tout est Web, donc abandonnons le CD-ROM et chaque fois que nous pouvons penser des outils d'édition
de travail, pensons-les web centrés. Hein, c'est-à-dire que dès que nous pouvons, essayons de basculer le plus les outils de recherche, les outils d'édition, les outils de commentaires en ligne. Hein, donc c'est une raison de plus, c'est la richesse du web 2.0 en termes d'interface utilisateur, de contrôle que l'utilisateur a sur ses pages, nous pousse à affirmer encore plus fort ce qui devrait être notre credo de praticien de l'internet littéraire, c'est que tout ne doit plus fonctionner que sur le web, tout en prévoyant des possibles exportations ensuite a posteriori sur votre bureau, sur la data personnelle, etc. Hein? Je pense que ça, c'est disons, un premier élément. Essayons d'avoir une position nuancée par rapport à cette production d'informations hyper démocratique comme le Wikipédia, de créer nos propres outils qui seraient des outils semi-ouverts ou d'introduire le plus possible des éléments de régulation ou d'expertise. Je pense par exemple nous à ce qu'on a essayé de faire avec l'atelier théorique du théâtre du lac, qui est un Wikipédia dans le modèle et dans l'outil, mais qui a son instance de régulation. D'ailleurs, Wikipédia est en train de mettre d'ailleurs certaines pages qui sont protégées justement contre les effets de formation. Essayons donc d'utiliser et de conserver dans le web de deuxième génération ce qui fait notre force en tant que littéraire. C'est notre aptitude à organiser, à hiérarchiser, à statuer, à analyser les textes, parce que je crois que ce web 2.0, plus encore que le web 1.0, aura besoin de cette expertise-là pour défaire et dénouer les aspects dangereux de ces brouillages, hein, entre le privé et le public, le répéter, le créer, le propre et le collectif. Et qu'à ce titre-là, notre expertise de professionnel du texte et professionnel d'hypertexte, l'hypertexte est plus que jamais requise. Voilà. Je vous remercie.
Merci. Pour cet exposé brillant. Alors bon, il nous reste un
quart d'heure. 20 minutes, ouais.
Pour en débattre avec toi. Alors, le lien avec la littérature, je dirais que comme toujours, il est assez simple au fond. Son nouvelle manière d'écrire, d'abord, et là aussi, on imagine que, enfin bon, Constance est en train d'analyser ce que peut donner le blog, par exemple, sur le travail d'un écrivain, mais que tous ces moyens d'écrire, y compris les moyens d'écrire en commun, vont certainement donner lieu à des expériences, au moins, peut-être pas à des grandes œuvres, on n'en sait rien encore, mais à des expériences. Et puis d'un autre côté, c'est une manière de véhiculer de la documentation. Et cette Absolument. Documentation peut être littéraire, ça peut être du texte, ça peut être d'autres formes. Enfin, pour le wiki, par exemple, c'est évident que beaucoup de textes de type encyclopédique dans chaque domaine vont évoluer vers ce mode d'écriture.
Tous les modes de partage et les applications riches fondées sur Ajax permettent de manipuler les données, de les réorganiser, de les classer, doivent être de plus en plus intégrés à nos sites web. Alors je sais bien que les universités françaises ont déjà du mal à rattraper la première génération du web, hein, mais il faudrait espérer, là on travaille dans peu de temps, sera lancé un nouveau Fabula qui sera basé sur justement des false anonymies et des systèmes de tagging avec des systèmes d'alerte personnalisés, etc. Mais là aussi, on ne peut pas, par exemple, on s'était posé la question de savoir si on allait confier complètement, comme l'aurait fait n'importe quel site commercial, la qualification des articles, la mise à disposition des mots-clés, si on allait le faire, si on allait utiliser nos visiteurs pour, en fait, faire le travail qu'on n'a jamais eu le temps de faire, qui est d'attribuer des mots-clés aux articles. On a renoncé à le faire, on va vers des systèmes où on va utiliser une partie de la technologie pour générer des mots-clés facilement, mais sans permettre aux utilisateurs, en conservant notre expertise, si vous voulez, sans permettre aux utilisateurs d'influer sur ce que voient les autres utilisateurs. Donc en conservant le privilège de l'expertise et en ne permettant en fait que les gens ne balisent des pages que pour leur propre ordinateur sans influence. Donc on peut tout à fait transiger avec cette démocratie dont on n'est pas obligé d'accepter tous les aspects. Hein.
Il y a un des aspects auxquels je pensais, c'est l'ultra-libéralisation du web qui a tout aussi une portée de la publicité.
Je ne sais pas si la, disons que la publicité se fait plus discrète, plus insidieuse, moins dérangeante et plus informative, mais en même temps moins, moins simple à repérer comme publicité, je dirais. C'est-à-dire que c'est de moins en moins le modèle Google, c'est que tu n'as plus des banjos de publicité spectaculaires, tu n'as plus... mais ce que c'est de manière discrète... que tu as des contenus informatifs et par exemple il y a des technologies assez pernicieuses qui intègrent à des flux RSS tous les 7 nouvelles une nouvelle sponsorisée, ou alors ce qui devient de plus en plus pénible, ce sont les liens sponsorisés, c'est-à-dire dès que vous passez sur un lien vous avez un petit truc publicitaire qui s'affiche dessus. Autre intrusion un peu pénible de la publicité, c'est lors des pages intermédiaires, des pages de transition, par exemple, quand vous consultez un programme de cinéma sur Allociné ou dans certains sites. Par certains côtés, il y a des bénéfices parce que ce sont des publicités qui sont calculées en fonction de vos usages et de vos besoins, donc elles ont un rôle informatif. Par d'autres, c'est un peu pénible parce qu'on a du mal parfois à savoir ce qui est publicité et ce qui ne l'est plus.
Oui, il y a aussi il y a de la bonne publicité, si je peux dire. Enfin, c'est de la bonne publicité, c'est de l'information, tout simplement. C'est-à-dire, quand je suis dans un blog et que je clique sur le titre d'un ouvrage et que ça m'aiguille discrètement vers à la page ou Amazon pour pouvoir acheter le livre, c'est de la publicité, certes, puisque je suis branché sur un site commercial, mais ça peut m'intéresser aussi de l'œuvre. Enfin, c'est le problème des prospectus dans la boîte aux lettres, et il y en a qui nous intéressent. Enfin, on tombe parfois sur un prospectus qui nous intéresse.
Oui, mais peut-être que Alexandre l'a présenté de votre plus zéro, ça a l'air assez fabuleux et ça fait partie du web utopiste quand on est joué à 10 ans. Mais j'en suis pas avec des auditeurs qui se disent génial, c'est web de zéro, on va pouvoir balancer un nombre d'infos et publicité qui vont s'amener fort comme dans les distances, ça va être extraordinaire.
Mais ça, je vois pas en quoi ça serait spécifique. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire par balancer plus de publicité?
J'ai l'impression que tout à coup, le référencement du site étant plus simple par tous ces automatismes, j'ai l'impression que ça permet une rentabilité plus grande et plus rapide.
Je crois que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que...
C'est une question que je pose.
Non, moi je crois pas du tout, au contraire. C'est-à-dire que je pense qu'il peut avoir effectivement des effets de mode très forts, de concurrence, etc. Mais elles sont toujours filtrées par des mouvements quantitatifs qu'on ne peut pas contrôler. En particulier, l'époque où tu pouvais créer un site et le faire apparaître en haut de Google... est fini. Maintenant, les sites qui apparaissent et qui sont très rentables en termes de visibilité sont des sites anciens, des sites qui sont extrêmement reconnus, et il est extrêmement difficile justement de faire émerger un site ou un projet parce que le fait que l'ensemble des informations sont médiées par les communautés à travers des bookmarks partagés, etc., est au contraire, à mon avis, un très grand facteur de pérennisation de l'institué et de ralentissement d'émergence des mouvements de fond. Hein. Effectivement, tu peux avoir des modes sur des informations ou un truc qui va devenir très à la mode, des projets un peu spectaculaires, par exemple le One Million, vous savez, la page à $1 million dont vous êtes en train de parler. Il peut avoir ce genre de choses. Néanmoins, de manière massive, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas, par exemple, lancer facilement un éditeur en ligne, mais très superficiel. Le fait que Google maintenant intègre des facteurs comme l'âge du site, hein, ça c'est nouveau dans la version de Google depuis 6 mois, etc. Le fait que pour maintenant qu'un site soit maintenu, il faut qu'il reste un peu longtemps, il faut qu'il y ait un regard critique, joue un peu dans le contraire. Alors c'est vrai qu'il y avait eu un débat justement entre Slashdot et entre Dig, parce que en gros, ce que Slashdot sortait comme histoire, étaient des histoires plus pérennes, parce qu'elles avaient été produites par des vrais éditeurs intellectuels, et que parfois dans Dig, il y avait des choses qui étaient un peu plus hype, plus rapides, etc. Néanmoins, il ne faut pas pour autant s'imaginer qu'on va avoir comme ça des coûts de publicité sur des sites nouveaux.
L'UMP achète le mot Netizen, nouveau magazine qui n'est pas du tout en relation avec l'UMP. Et dès qu'on cherche Netizen, on a la pub pour l'UMP. Donc là, ce n'est pas une question de pérennité. Ils ont payé pour que ça s'affiche quand on cherche Netizen.
Oui, mais.
Et Netizen dit bah, nous, on n'y peut rien. Et l'UMP dit
ouais, mais.
Il n'y a pas de.
Ça marche qu'une fois, ça.
Mais non,
ça marche qu'une fois parce que tout le monde va acheter.
Le mot.
Mais oui, mais bien sûr, Patrick, mais ça marche parce qu'en France, on découpe le monde. Mais quand le Parti Socialiste, quand le Parti Communiste, quand tous les partis auront chacun acheté.
Et d'accord, mais tout
les mots-clés, tu veux le coup de Jacques Lang qui a été acheté par l'UMP, simplement parce que l'UMP a tiré plus vite. Mais ouais. Ensuite, quand tout le monde aura acheté les mots-clés, il y aura des effets de pondération et il ne faut pas du tout estimer que... Peut-être maintenant, on peut acheter le mot littérature et apparaître très vite dans Google avec le mot littérature. Mais ça sera très, très éventé, si tu veux, très vite.
Oui, mais ça veut dire aussi qu'ils dépensent l'argent... à des choses qu'avant,
on n'a
pas besoin de
payer
pour ça.
Oh, tu sais, est-ce que c'est mieux qu'envoyer des bouquets de fleurs aux vieilles dames pour acheter des électeurs? Tu sais, vraiment, les voies de la politique, c'est un petit peu...
Moi, je suis écroulée d'infos tout le temps, de trucs magiques à essayer, et c'est infernal, quoi.
Magique.
Donc... Et je trouve que c'est difficile de discerner. Par exemple, Wikipédia, très vite, moi je me suis rendu compte très vite de ses atouts, mais aussi de ses inconvénients. Par exemple, il y a par des étudiants plagiaires, c'est clairement. J'ai donc vérifié un par un des dossiers, je prends une citation du dossier, je tape dans Google, et je vois arriver, à ma grande surprise, les pages de Wikipédia qui étaient des reprises intégrales de sites, des pompages entiers de sites de Wikipédia, par exemple, sur les films, ça a d'importance peut-être. Mais. Et donc, je dis, bon, est-ce qu'on je lance là-dedans ou pas, et je trouve que j'ai essayé des outils qui ne marchaient pas, pourtant ça a l'air super. Je trouve aussi que souvent on dit que tout est facile pour les débutants, alors les de rôle, ça a été. Je pense que tu connais le dossier Python et il y a donc un cours pour les novices adaptés à tous les débutants. Donc c'est pas du tout possible, bien sûr.
Tu veux faire avec Python?
Alors ça avait été extraordinaire à l'époque, c'était pour travailler sur un site collaboratif. Hein. Mais c'est toujours présenté comme étant facile, transparent, accessible.
Aesop?
Oui, oui, par exemple. Hein, c'est... Mais peu importe, c'est juste pour montrer qu'à l'évidence, c'est pas vrai. Et donc là, par rapport au titulant, moi, je dis, bon, par lequel je commence, quoi. C'est enthousiasmant. Il y en a plein qui répondent à des problèmes vraiment importants, quoi. Moi, j'ai trop de favoris, les logiciels de gestion de favoris, les ne gèrent pas, par exemple. Ça passe.
J'ai envie de te dire que tous ces outils sont fondés sur, en général, une volonté de simplicité et c'est assez simple. En revanche, des dilemmes se créent et moi je suis tout le temps dans des dilemmes parce que ça fait trois fois que je bascule mes bookmarks sur Delicious, que en fait je m'aperçois que c'est quand même bien d'avoir sur son navigateur, que je les remets sur mon navigateur et j'ai la même hésitation si tu veux pour un ensemble de trucs. Au début j'avais commencé à mettre mes notes sur NetWipes. J'avais commencé à mettre des calendriers sur des trucs partagés et tu à un moment où tu hésites entre l'interface à utiliser, est-ce que tu vas fondre, qu'est-ce que tu vas mettre en ligne, par exemple pour les photos, si je m'étais demandé est-ce que je vais mettre les photos de mon môme en ligne, ce qui est pratique parce que je peux replier l'adresse, mais ce qui est quand même chiant parce qu'il faut que je les mette en ligne, ce qui est sécurisant parce que elles sont stockées et en consomme plus d'ordinateur. Donc tu vois, il y a des arbitrages qui se font sur l'endroit où tu vas faire tel ou tel travail. Je dirais que le problème ne se situe pas forcément dans les learning curves des outils technologiques, il y a toujours eu des difficultés, etc. Mais dans le fait que vas avoir des arbitrages à faire sur ce que tu décides d'être privé, ce que tu décides d'être accessible universellement, ce que tu as besoin de consulter chez toi, ce que tu as besoin de consulter à distance. Moi, je dirais que c'est comme ça que je ressens la difficulté.
J'ai l'impression qu'il y a une tendance lourde et qui va peut-être à l'encontre de ce qu'on avait imaginé, c'est le stockage des données personnelles en ligne. Et je me demande si à plus ou moins long terme, on ne va pas avoir des ordinateurs qui auront beaucoup moins de mémoire, de de disque dur, et qu'on aura nos applications, les applications sur nos machines avec les différents.
Au début, c'est ce qu'on a cru. On a cru que les ordinateurs n'auraient plus de disque dur. Sun a lancé pendant des ordinateurs sans disque dur en disant vous allez stocker vos données sur des ordinateurs centralisés. Personne n'en a voulu. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que le stockage en ligne est complémentaire, fonctionne comme sauvegarde, fonctionne comme.
Ce qu'on a beaucoup dit, c'est qu'il y allait avoir des applications.
Tu accepterais d'avoir tous tes documents, toi, sur le serveur de Google France?
Je reformule les choses.
Alors, Google Mail offre 2,5 gigas de stockage des mails. Vous pouvez exporter tous vos mails sur tous vos mails, hein, des dizaines de milliers de mails sur Google. Est-ce que vous le faites ou pas?
Oui, parce que ça m'est arrivé de planter tout et de comprendre que c'était plus en sécurité sur le serveur du boulot que sur mon ordinateur. Mais non, si je me dis que mon voisin peut voir ce que je lis.
C'est ça, c'est des histoires de sécurité, mais il ne peut pas. Pas forcément les quelques documents sensibles qui sont généralement des documents texte, mais si je prends un exemple basique, je dois avoir 20 gigas de musique qui sont tous stockés sur Streamlabs, on s'en fout, et que je peux écouter de n'importe où, et qui pollue mon ordinateur, ça prend de la place, et je préfère pouvoir les écouter quand je suis en voyage, n'importe où, c'est là et ça ne bougera jamais, c'est gratuit.
Je ne sais pas si on va vraiment accepter un tel degré de désappropriation des stockages de
documents. C'est-à-dire que comme on a de plus en plus d'ordinateurs, un portable, un boulot, un module, il y a une multiplication des données, on ne sait jamais où sont les données. C'est quand même très pratique d'avoir un truc, on sait qu'elles sont là. Où que je sois, quand je voyage, je peux avoir tout mon ordinateur à distance.
Bien sûr. Moi, à mon avis, on va vers plutôt des choses qui relèveraient de la redondance. C'est-à-dire d'avoir à la fois un stockage fondamental chez soi et d'avoir des outils d'accès de l'extérieur. Mais je ne pense pas que les gens soient prêts et gagneraient.
Je crois aussi que chat est chaud et craint l'eau froide et que tout le monde a vécu un gros plantage et a perdu des données. Et que ce côté, c'est. Alors, je ne sais pas si c'est plus sûr quand c'est en ligne,
mais on a l'illusion. Tout le monde s'est retrouvé sans connexion Internet.
Oui, mais de moins en moins, on finit toujours par trouver.
À mon avis, on a besoin des deux. C'est-à-dire que on a besoin des deux. On n'est pas à l'abri de se retrouver sans réseau. Ça peut arriver. J'ai de la DSL super haut débit chez moi. Je suis tout le temps dans une fac. J'ai un abonnement Wi-Fi. J'ai du Wi-Fi. J'ai une carte 3G. J'ai du 3G sur mon téléphone. Ça m'est arrivé de me retrouver parce qu'il y a une mauvaise conjonction de situation dans l'impossibilité d'accéder à. Si je n'avais pas eu un stockage local, je crois que. Donc, si tu veux, je pense qu'il faut vraiment penser les deux.
Mais quand on n'arrive pas à se connecter, on n'y arrive pas le lendemain, alors que quand on a perdu ses données, on en a perdu pour toujours.
Oui, mais quand tu n'arrives pas à te connecter, que. Par exemple, ça m'est arrivé des fois de ne pas de garder des rendez-vous sur des mails, et de devoir, au dernier moment, les consulter sur mon téléphone portable, et d'avoir de galérer parce que. Donc, moi, je crois vraiment qu'il y a une. Effectivement, c'est une tendance lourde, mais la tendance lourde, c'est pas forcément celle de la dépersonnalisation et d'exploitation de toutes les données, mais d'avoir vraiment un accès à distance et une redondance de données.
Une question patrimoniale aussi. On l'évoquait il y a 15 jours avec les éditrices d'Erudit, la revue Erudit. C'est-à-dire que les bibliothèques, jusqu'à maintenant, possédaient les revues, les livres, et que maintenant elles achètent des abonnements à des revues, elles ont le même type de problème, c'est-à-dire qu'elles ne possèdent plus rien en fait. Elles ont un droit d'accès à des données qui sont quelque part sur un serveur. Et ça pose des problèmes sérieux, parce que. Mais là, les problèmes sont des deux côtés. D'une part, les supports que nous utilisons, nous, individus, on ne connaît pas leur pérennité. On a tous des stocks de CD, peut-être même de disquettes, dont on ne sait pas si elles seront lisibles dans 5 ans ou 10 ans. Mais d'un autre côté, tout mettre sur un site dont on ne sait pas si l'entreprise qu'il gère va continuer à le faire, c'est un risque également. Alors, il y a quand même toute cette incertitude.
Moi, je crois qu'il faut penser valorisation des différences, des intérêts, des inconvénients des deux outils.
c'est une question pour les équipes de recherche, par exemple. Tout ce que nous produisons, je pense à Fabula, Hubert Falaise, enfin, tout ce que les équipes de recherche produisent actuellement dans le numérique, comment va-t-on être sûr que ça restera disponible, mettons, dans un siècle, pour être ambitieux?
Les productions des revues, des universités sur papier non désacidifiés, en tout cas leur destruction est garantie, ça c'est sûr.
Mais nos collègues qui ont produit en 1906, on lit encore leurs documents. Ça c'est certain, sauf quelques cas comme ça de papier, mais ne serait-ce que parce que ces documents-là ont été reproduits un certain nombre de fois, déposés dans des bibliothèques, bien gardés, etc. Ce que nous produisons aujourd'hui, encore une fois, ce qui n'existe pas, nos sites web. Qu'est-ce qui va en rester? C'est une vraie question, alors qui touche la littérature au sens de stockage d'un patrimoine écrit. Alors tout ne mérite sans doute pas d'être conservé. On peut se dire qu'au fond, ce qui sera conservé, c'est ce qui sera utilisé, donc ce qui sera. Mais c'est pas une réponse totalement satisfaisante.
Enfin, comme disait Keynes, à long terme, nous sommes tous morts.
Certes, mais justement, même quand nous sommes morts, il y a des productions qui perdurent, et c'est une des choses qu'on étudie quand on étudie la littérature. Ce sont justement des témoignages écrits qui ont franchi
parfois
les
millénaires. Et puis avec des pertes, sur le degré de perte de la littérature antique, de la littérature même médiévale, est tellement grand que. Bon.
Moi j'allais dire inversement. C'est un peu ça, enfin, les belles lettres que l'entrepôt a brûlées, ouais. Et en fait, on a en ligne des tas de textes en latin, donc, hein, qui étaient pas du tout accessibles comme ça, il y a 5 ans.
Mais on va rester sur cette note angoissante. Mais le web 2.0 n'est pas forcément une réponse à ce problème-là.
Non, pas spécifiquement.
En revanche, il produit un nombre de documents énormes, et ça c'est une autre question, c'est l'archivage de l'Internet. Il produit une masse de documents considérable qui, elle, va être très largement perdue.
Enfin, ouais, et puis il produit des choses qui ne sont pas des documents, parce que ce sont des résultats en temps réel générés par les applications. C'est ça qui est très frappant. C'est que... le paradigme du document est de moins en moins pérenne, ne serait-ce que parce que les applications Ajax ne peuvent pas être indexées avec un bookmarks, c'est-à-dire que c'est de plus en plus des interactions, si tu veux. Tu ne peux pas stocker un site comme dit, etc. C'est des pages hyper dynamiques, si tu veux. C'est-à-dire que c'est non seulement dynamique parce que c'est généré par ces en temps réel, mais parce que c'est généré par ta propre page en temps réel. Donc ça veut dire que tu le concept de document et de page a tendance à se dissoudre.
Oui, je ne sais pas, je suis en train de penser à une réplique de Beckett. Qui a dit ça? Quand tu lis des articles là, produits globalement, qui dit ça? Réplique. Partenaires, les gens sont vivants. Je cite textuellement.
C'est ça, une information qui circule comme ça, qui est très redondante, qui a été reprise à un endroit. Et puis, parce que dans Wikipédia, il y a beaucoup de plagiat non signalé quand même. Hein.
Oui, en même temps, l'information, nous sommes des sociétés démocratiques, on accepte d'être dirigé par des gens qui sont votés par des gens qui ont des opinions redondantes, parfois de mauvaise qualité, on accepte.
C'est totalement plagié.
Tu dis, beaucoup d'encyclopédies papier,
bien sûr,
on passe aussi plagié, sans indication particulière.
Et sans tu vérifies quand tu parles de Beckett, tu vas vérifier qu'il y a vraiment un type qui s'appelle Samuel Beckett, etc.
Mais je peux te dire que là, il a écrit ça et que ça se joue, c'est presque. J'ai la réplique que vient de
du problème, c'est essentiellement Firefox qui plante.
Ah bon?
Ouais.
Oh ouais, je crois.
Parce que sur Internet Explorer, ça marche.
Bon, bah écoutez, on va y aller parce que le centre ferme un peu plus tôt que d'habitude.